chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Le camp des familles, le thème de ces chapitres de l'histoire qui vous sont proposés par David Allon et présentés par Jarka Gisubelova et Guillaume Narquet. Dans la sombre histoire de la Shoah, il est une aberration dont on parle peu, celle du camp des familles à Auschwitz. Un camp dans le camp qui voit les Juifs tchèques vivre des conditions de détention nettement différentes de celles des autres détenus raciaux. Retour sur une illusion à peine trompeuse. En décembre 1943, arrive à Auschwitz un convoi de Juifs tchèques, déportés du camp de Térésine en Bohême. Leur voyage, si l'on peut l'appeler ainsi, a duré 2 jours et 1 nuit. Mais à leur arrivée dans le camp de la mort, leur destin est différent de celui des autres Juifs. Pas de rampe de sélection, pas de tonte des cheveux, pas de séparation entre parents et enfants.
Ces Juifs tchèques sont regroupés au sein du camp dit des familles, où ils rencontrent certains de leurs coreligionnaires également déportés de Térésine. Combien sont-ils? Environ 4000, peut-être 4500. Étrangement, ils connaissent des conditions de vie sans aucun rapport avec les autres détenus. Ils sont mieux nourris, portent des vêtements civils au lieu de la tristement célèbre tenue à rayures bleues et blanches. Il y a même un théâtre et une école pour les enfants, visités régulièrement par les gardiens SS. Une véritable aberration. À deux pas, c'est un enfer sans nom. Et pourtant, tous les membres du camp des familles seront finalement gazés.
Pourquoi ? L'irrationalité nazie est-elle suffisante pour comprendre ? Car jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'explique vraiment l'existence puis la liquidation de ce camp des familles.
Il se pourrait bien que les motifs de ce camp dans le camp soient plus terre à terre. Disons-le franchement, il s'agit sans doute de politique. On sait que les nazis firent leur possible pour cacher leurs crimes, détruisant par exemple les chambres à gaz lors de leur retraite. Le temps de durée du camp des familles avait été officiellement fixé à 6 mois. Un document retrouvé à Auschwitz le prouve. Tout était donc préparé. 6 mois, en fait, le camp dura un peu plus. Cette période était sans doute jugée suffisante par les nazis pour prouver à qui voudrait l'entendre qu'Auschwitz était un camp de travail normal, voire pourquoi pas un camp humain.
Après tout, ils n'avaient pas fait autrement avec les malades mentaux euthanasiés en Allemagne. À leur famille, ils envoyaient une simple lettre expliquant un décès accidentel, le tout étant de rester dans les formes et de faire passer la pilule. En mars 1944, le camp des familles est liquidé et ses habitants gazés. On y reviendra. Or, 3 mois après, Eichmann invite la Croix-Rouge à visiter le camp de Térésine en Bohême sous la demande du Danemark. Pour l'occasion, quelques retouches et mises en scène semblent tromper les visiteurs.
Bref, notre idée est bien que les Juifs tchèques de Térésine à Auschwitz ont servi de vitrine auprès de l'opinion internationale. Sont d'ailleurs pour autant qu'ils fussent épargnés.
Mais revenons au camp des familles. Membre de la résistance, détenu depuis 18 mois, Rudolf Verba, un juif slovaque, entre vite en contact avec le camp des familles. Il veut convaincre les hommes de les rejoindre dans le mouvement de résistance du camp. En fait, il a très vite compris que le camp des familles était condamné. Son interlocuteur auprès du camp est Freddy Hirsch, un juif allemand émigré à Prague. Cet homme d'un peu plus de 30 ans est très proche des enfants du camp. Il en est personnellement responsable et apporte un soin particulier à leur éducation. Hirsch communiquera à Verba le nombre d'hommes prêts à prêter main forte en cas de révolte.
D'autant plus que le temps presse. Fin février 1944, des bruits sur les préparatifs du gazage des familles filtrent. Kaminski, un des chefs de la résistance au commando spécial, veut avertir les Juifs du camp des familles. Mais l'opération de gazage est repoussée de quelques jours, en fait, juste un court sursis. Vraba tente encore une fois de persuader Hirsch d'organiser une révolte armée. Sur le chemin de leur exécution, les hommes s'empareraient des armes de leurs gardiens et en tueraient un maximum. La fin était inéluctable, alors pourquoi ne pas mourir les armes à la main ? Pour Hirsch, le principal obstacle et la principale obsession, ce sont les enfants qu'il considère comme les siens. Face à un choix insoluble, il tente de se suicider en s'empoisonnant. Un matin, les SS viennent embarquer les familles dans des camions. Subterfuge classique pour une exécution calme, ils expliquent aux Juifs qu'ils seront transférés à Heidebreck. Mais le camion ne tourne pas à droite vers la sortie du camp, il prend bien la direction des chambres à gaz. Une scène unique se produira alors. Battus, forcés de rentrer dans la chambre, les Juifs entonnent l'hymne national tchèque, puis la Hatikva, futur hymne d'Israël.
Rudolf Verba, qui avait tenté de soulever le camp des familles, fera quant à lui partie des rares à avoir pu s'échapper d'Auschwitz. En avril 1944, il parvient à regagner la Slovaquie avec un codétenu, Alfred Wetzler. Ils rédigeront un rapport de 32 pages sur la réalité de l'extermination des Juifs qu'ils enverront au gouvernement anglais et américain. À cette date, on savait déjà l'essentiel. Mais ce document poussera les Alliés à faire pression sur les nazis dans le cadre de la déportation des Juifs hongrois qui commence au même moment. Si 400 000 furent effectivement déportés, on estime à environ 100 000 le nombre de vies sauvées grâce à ce rapport.